Aujourd'hui, à Rencontre, le Vaudou, avec Laïnec Urbon. Laïnec Urbon est né à Jacmel, en Haïti. Il est docteur en théologie et docteur en sociologie de la Sorbonne. Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique de Paris, Laïnec Urbon a publié « Le barbare imaginaire » aux éditions du Cerf. Il s'agit d'un essai sur les sorciers, les zombies et les cannibales en Haïti. Laïnec Urbon est interviewé par Marcel Brisebois.
Laïnec Urbon, votre œuvre est principalement consacrée à la culture haïtienne, à ses relations avec le pouvoir religieux ou civil. Et dans cette étude de la culture haïtienne, vous êtes attaché à étudier le vaudou dont on parle beaucoup, sans toujours savoir ce que c'est. Pourriez-vous nous dire ce que c'est que le vaudou ?
Bien, le vaudou, c'est un culte que les Haïtiens ont hérité de l'Afrique et qu'ils ont réélaboré dans le cadre du système esclavagiste qui a duré 3 ou 4 siècles en Haïti, qui s'appelait à ce moment-là Saint-Domingue, avant l'indépendance, en 1804. Et ce culte hérité de l'Afrique a quelque chose d'original, car il s'est constitué en osmose avec le christianisme, au sens où il a su utiliser un certain nombre de symboles du catholicisme, en particulier les saints catholiques représentent, dans le cadre du système vaudou, des esprits vaudou, car le vaudou, c'est d'abord un culte rendu aux esprits, et ces esprits forment des familles, se constituent en familles qui elles-mêmes renvoient à ce qu'on appelle, dans le vocabulaire haïtien, les nations africaines. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de transposition au niveau de l'imaginaire de l'ensemble des nations africaines dans le cadre du culte vaudou, et ce sont ces esprits, donc, répartis en différentes familles, donc en différentes nations africaines, ce sont ces esprits qui interviennent dans la vie quotidienne des Haïtiens, qui interviennent par la transe et la possession au cours de cérémonies prévues selon un calendrier bien fixé, un calendrier qui correspond également au calendrier liturgique de l'Église catholique. Comme vous le savez, le vaudou ayant été interdit pendant l'esclavage, il a su se cacher derrière les pratiques du catholicisme. C'est pour cette raison que je parlais d'osmose qui s'est produite entre les pratiques religieuses héritées de l'Afrique et le christianisme.
Qui pratique le vaudou ? Est-ce qu'il y a des catégories sociales où on retrouve ce culte et d'autres qui, au contraire, le rejetteraient ?
En Haïti, on croit que seules les masses paysannes pratiquent le vaudou. Comme vous le savez, Haïti est composé en particulier de paysans. C'est un peuple de paysans. Il y a 90% de la population qui vivent encore dans les campagnes. Enfin, dans les Caraïbes, ça représente probablement le taux le plus important de paysans dans les campagnes. Et on croit que seul dans les campagnes, on pratique le vaudou. À la vérité, dans les villes également, on le pratique. Et surtout à la périphérie des villes, à Port-au-Prince même, dans beaucoup de bidonvilles, à Carrefour, à Bizoton, au Bel Air, et dans beaucoup d'autres endroits, il y a ce qu'on appelle des onfors, c'est-à-dire des temples vaudou. On peut dire qu'une partie de ce qu'on appelle les classes moyennes en Haïti, donc la petite bourgeoisie d'employés, de fonctionnaires, d'intellectuels, une partie de ces couches pratiquent également le vaudou, soit en retournant à la campagne, soit en se reliant à leur famille. Également, on trouve un certain nombre de membres de la bourgeoisie qui le pratiquent. Mais en fait, de plus en plus, il y a un retrait des préjugés contre les pratiques du vaudou, en sorte qu'on voit beaucoup plus des gens de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie le pratiquer. Même si avant, ça se faisait clandestinement.
Mais comment peut-on s'adonner à un culte qui, d'après ce que vous nous en avez dit rapidement, semble très peu rationnel ?
Dire qu'un culte est très peu rationnel, je ne sais pas tout à fait ce que cela veut dire, mais il faudrait le dire de tous les cultes à ce niveau. Il est certain qu'une religion Et c'est quelque chose de tout à fait différent que ce qu'on appelle l'ordre même de la raison à proprement parler, encore qu'on puisse trouver de la rationalité à l'intérieur de ce culte. Si on étudie le vaudou, on trouve qu'il constitue un langage. C'est ce que je me suis évertué à expliquer dès mes premiers ouvrages, pour contester un petit peu l'ensemble des préjugés qui disaient que le vaudou, c'est un ensemble de pratiques, si ce n'est barbare, en tout cas irrationnel. Je m'évertue donc à expliquer que le vaudou devait être compris comme on comprenait une langue, et donc qu'il y avait un certain nombre de règles, de protocoles, qu'il y avait une certaine rationalité dans ce langage que constitue le vaudou. Un langage à partir duquel les Haïtiens apprennent à comprendre le monde, à comprendre le rapport à soi-même et aux autres. Et ce langage réfère donc à un imaginaire qui donne à comprendre le réel et à l'apprivoiser d'une certaine manière.
Alors, au sein de la liturgie catholique ou de la liturgie chrétienne, on trouve l'Eucharistie sous la forme soit du sacrifice de la messe, comme on dit chez les catholiques, ou soit sous la forme de la Sainte Cène. Et autour de ça s'organisent les autres pratiques. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce qui est le cœur du culte vaudou et ses ramifications?
Eh bien, une cérémonie vaudou se construit comme une fête. Et donc, il y a une bonne part d'improvisation. Tout a lieu donc dans un cadre bien déterminé qu'on appelle le Oumfor ou le temple vaudou. Mais l'essentiel du hangar, l'essentiel de l'espace autour duquel se déroule la cérémonie proprement dite, s'appelle le péristyle. Et dans le péristyle, qui est un hangar, il y a ce qu'on appelle le potomitan. Le potomitan qui est le chemin de passage des esprits. Qui est le poteau qui relie le monde invisible au monde terrestre. Et autour de ce poteau, les esprits vont éventuellement venir, mais sous la houlette de l'interprète attitré des esprits, du langage des esprits, qu'on appelle le Ungan, qui est le prêtre vaudou, ou s'il est une femme, qu'on appelle Mambo. Et autour du Ungan, il y a un certain nombre de gens qui sont préposés à différentes activités liturgiques. Il y en a qui sont responsables de la cuisson des aliments, il y en a qui sont responsables du chant. Il y a un corps d'initiés en particulier qu'on appelle des onsi, c'est-à-dire des gens qui sont liés directement à des esprits vaudous. Et puis il y a la masse des fidèles qui dansent autour. Mais surtout, l'essentiel de la cérémonie va se dérouler donc autour, à la cadence des rythmes que le tambour, qui est l'instrument par excellence du culte du vaudou, des rythmes et des danses et des chants qui seront continuellement lancés au cours de la cérémonie. Chaque rythme de tambour, chaque chant renvoie à un rapport aux esprits, et c'est au fur et à mesure que la danse, que le chant envahissent l'espace, que les esprits vont accorder leur faveur aux initiés comme à des fidèles qui vont tomber en transe et en possession. Et le travail du Ungan ou de la Mambo, c'est-à-dire du prêtre et de la prêtresse qui dirige la cérémonie, c'est de canaliser ce que j'appelle les flux spirituel, les flux des esprits. Donc, d'apprivoiser, de ne pas laisser un esprit arriver impromptu, n'importe comment, et refuser de s'en aller, par exemple. Il faut que la possession ait lieu de manière réglée, ordonnée.
Oui. Vous savez très bien que dans notre perception d'occidentaux, qu'on a lié le vaudou à la sorcellerie, au cannibalisme, et puis à cette réalité mystérieuse, peut-être terrifiante, que l'on appelle les zombies. Comment vous voyez tous ces liens, vous ?
Eh bien, tout le débat est là, justement. Parce que ce qui m'a frappé, et c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à écrire l'ouvrage « Le barbare imaginaire », je me suis rendu compte qu'il y a un noyau résistant dans l'ensemble des préjugés qui parcourent l'appréhension du vaudou, les différentes méthodes d'appréhension du vaudou, que ce soit en Haïti même, dans une partie des élites haïtiennes, ou que ce soit surtout dans les milieux américains, à l'étranger, en particulier pendant l'occupation américaine, ou occidentaux pendant le 19e siècle, et peut-être avant, pendant l'esclavage. On a assimilé l'ensemble des pratiques du vaudou à de la sorcellerie, ou à du cannibalisme, ou en tout cas à un type de pratique dite barbare, par exemple, la pratique de sorcellerie qui consiste à produire des morts vivants par une injection d'une certaine dose de poison que seuls des prêtres vaudous connaissent en secret et qui se transmettent également au cours de certaines initiations.
Est-ce que c'est une légende, ça, ou si c'est un fondement dans le réel?
Il y a un fondement dans la réalité. De toute façon, il n'y a pas de légende qui n'ait de fondement dans la réalité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il est certain qu'il y a à la fois de l'imaginaire et du réel dans tout ce qu'on raconte sur la sorcellerie, le cannibalisme et la zombification. Mais ce que j'ai tenté d'expliquer jusqu'à présent, c'est que cette assimilation du vaudou à la pratique, à la pure pratique de sorcellerie, a été d'abord quelque chose qu'on a essayé de faire pendant l'esclavage en particulier. Pendant l'esclavage, il fallait que le vaudou soit compris comme un lieu de rassemblement de rebelles contre le système esclavagiste, un lieu d'empoisonneurs où des empoisonneurs se réunissaient, et donc ça faisait peur aux planteurs, aux gérants d'habitations, et en particulier aux propriétaires d'esclaves. Donc il a fallu assimiler le vaudou à des pratiques dites de sorcellerie, et donc l'acculer à la clandestinité, l'interdire. Le Code noir interdisait le vaudou donc pendant 2 à 3 siècles. Le Code noir de 1685, comme vous savez, qui réglementait la vie quotidienne des esclaves.
Maintenant, mais ça a continué même à être interdit après l'indépendance.
Tel est le débat aussi qui m'intrigue. Après l'indépendance, nous avons vécu en Haïti quelque chose de singulier pour l'histoire universelle. C'est-à-dire que nous avons pour la première fois un peuple qui va passer de la condition esclavagiste, donc de la condition de non-sujet de droit, à la condition d'êtres humains sujets de droit. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il a fallu créer un État qui devait garantir donc l'abolition de l'esclavage. Et cet État, pouvait-il être un État de droit réellement garantissant la liberté, l'habeas corpus au sens strict, cette fois, pour l'ensemble des esclaves qui ne l'avaient pas? Eh bien, on s'est rendu compte que la question haïtienne devient exemplaire à partir de là, puisque l'État indépendant qui va se constituer va tenter d'être mimétique par rapport aux États-nations occidentaux, c'est-à-dire de reprendre les modèles et les valeurs du monde occidental pour pouvoir se faire reconnaître auprès des autres, dans le concert des nations. Et c'est là qu'un divorce va se produire en Haïti entre ce qu'on appelle la ville et les campagnes, entre les élites et les masses. Les masses paysannes, c'est-à-dire les masses de nouveaux libres, vont être maintenues dans une situation néo-esclavagiste et vont être acculées à la corvée, à des pratiques, disons, économiques de denrées d'exportation pour l'étranger. Et vont être fixés sur des terres attelées donc à un travail de type servile et donc n'auront pas de droit. Et c'est dans cette perspective que le vaudou sera relativement interdit.
Quelle est la relation actuelle entre le vaudou, le culte vaudou et l'Église catholique telle qu'elle vit et telle qu'elle entend être en Haïti actuellement?
Ah, la relation actuelle entre le catholicisme et le vaudou n'est plus de l'ordre de la violence comme cela s'est produit dans le passé. Il y a eu plusieurs campagnes dites en Haïti, campagne anti-superstitieuse contre le vaudou. Il y en a eu à la fin du siècle dernier, il y en a eu pendant l'occupation américaine et surtout juste après l'occupation américaine qui s'est terminée donc. En 1934, il y en a eu en 1941, une campagne anti-superstitieuse organisée massivement à travers le pays. Eh bien, on peut dire que sous le régime de Duvalier, qui a tenté un réemploi systématique du vaudou au service de son régime dictatorial, eh bien, il y a eu, pendant cette période, non pas une tâche de dialogue entre le catholicisme et le vaudou, il y a eu un certain silence, si vous voulez, du catholicisme vis-à-vis du vaudou. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques escarmouches ici et là, c'est-à-dire des prêtres qui, dans un certain nombre de paroisses, continuaient systématiquement un travail de dénonciation des pratiques du vaudou comme étant des pratiques relevant du diable, de la sorcellerie, et de la primitivité. Il y a eu un certain nombre. Il y a eu, surtout, dans la période qui précédait la chute de Duvalier, un discours anti-satanique, mais qui tâchait d'assimiler le régime dictatorial à quelque chose qui relève de l'ordre satanique. Et dans la mentalité haïtienne, ce qui est de l'ordre satanique est aussi de l'ordre du vaudou. Disons, dans la mentalité haïtienne dominante, eh bien, on peut dire qu'actuellement, l'Église catholique doit être quelque peu gênée pour trouver un discours théologique adéquat pour justifier, d'une part, son silence, et d'autre part, une pratique de pastorale quelconque vis-à-vis du vaudou. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a eu dans l'Église catholique un effort considérable fait pour utiliser le créole de manière massive au niveau des chants catholiques et pour utiliser des airs vaudous dans la liturgie dominicale. Et cela n'est pas sans effet sur les masses haïtiennes. Autrement dit, ça les attire davantage vers l'Église catholique. Donc il y a eu de plus en plus une sorte de continuum, une sorte d'osmose, de nouvelle osmose qui se construit. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans les rapports entre l'Église catholique et le vaudou.
Lénaïque Urbon, vous avez écrit un ouvrage sur Ernst Bloch. Ernst Bloch qui concevait la religion comme porteuse d'espérance. J'oserais presque vous demander quel est l'espoir que porte le vaudou.
Eh bien, j'étais énormément intéressé à l'utopie, en particulier à l'utopie concrète telle que Ernst Bloch, le philosophe allemand, la définissait. Je crois qu'on ne peut pas vivre, il n'y a pas de lutte possible sans une certaine utopie qu'on peut éventuellement critiquer au fur et à mesure qu'on la voit se réaliser. Mais pour ce qui concerne le vaudou, j'ai tenté de retrouver ce qu'il y avait d'utopique dans le cadre du vaudou. Je crois que, en particulier dans la période révolutionnaire haïtienne, c'est-à-dire la période qui va de 1791, date de la première grande révolte massive des esclaves, donc 2 ans après la Révolution française, je crois qu'il y a eu une utopie qui s'est construite, qui s'est édifié à ce moment-là, puisque c'est au cours d'une cérémonie vaudou que le point de départ de l'indépendance d'Haïti a eu lieu. En revanche, on peut dire que le type d'utopie qu'on trouve dans le vaudou, c'est une utopie qui permet à une masse d'hommes et de femmes de retrouver dans ce langage un imaginaire qui leur permet de vivre l'ensemble des frustrations sociales et politiques qu'ils connaissent dans la vie quotidienne, dans la vie sociale et politique en Haïti, parce qu'on peut dire que le peuple haïtien n'est pas réellement sorti de l'esclavage. Il a tenté à travers le vaudou de se constituer un imaginaire qui lui permette de survivre. C'est pas une utopie qui peut aller très loin. On trouve la reprise des traces de cette utopie à travers toutes les productions culturelles haïtiennes, en particulier dans la peinture naïve, et pas seulement dans la peinture naïve, mais dans la peinture moderne haïtienne aussi. On la trouve dans la sculpture haïtienne, on la trouve dans la littérature haïtienne. Toujours est-il qu'il y a eu une certaine hésitation de la part des Haïtiens à retrouver dans le vaudou ce que j'appelle les traces du rêve éveillé qu'on peut y trouver, des traces d'imaginaire capables de leur permettre de reconstruire le quotidien. Il y a eu une certaine hésitation. Il est possible qu'après la chute de Duvalier, qui a tenté une manipulation massive du vaudou, et qui peut-être se poursuit encore dans la mesure où nous ne sommes pas totalement sortis de l'ère duvaliériste en Haïti, on peut dire que si une certaine critique se produit, une certaine critique interne se produit dans le vaudou, pourquoi une critique interne ne se produirait pas dans le vaudou, puisque on la trouve dans différentes autres religions, en particulier dans le catholicisme, à travers en particulier la théologie de la libération, en tout cas certains courants de la théologie de la libération, on peut dire que dans le vaudou, si une critique interne se produit, il est possible de retrouver des traces du rêve éveillé. Il est possible que les Haïtiens reconstruisent à partir de leurs propres sources internes un univers qui soit digne d'un être humain, enfin est capable d'accéder à la condition de sujet de droit, donc capable de sortir de l'ère esclavagiste.
Alors, le problème qui est posé à travers tout cela, c'est comment peut-on être haïtien, sujet de droit, comme vous le dites, etc., ayant une culture, une civilisation propre, qui ne soit pas une copie ou une transposition de la culture des européennes.
Oui, tout à fait. Je crois que les Haïtiens se trouvent à ce tournant. Dans la dernière constitution haïtienne, c'est-à-dire celle qui a été votée par référendum le 29 mars 1987, il y a eu, de la part des constituants, un effort pour dépénaliser le vaudou, donc, qui subissait donc, des interdits stricts jusqu'à présent.
En même temps qu'il a été utilisé, strict, comme vous disiez.
Oui, bien sûr, qui a été en même temps utilisé et manipulé politiquement. On peut dire que les Haïtiens se trouvent à un tournant, ou bien ils s'accrochent au vaudou comme à quelque chose qui relèverait d'une essence haïtienne. Je ne crois pas qu'il y a une essence haïtienne. Je ne crois pas que le vaudou renvoie à quelque chose qui devrait être répandu, qui devrait être considéré comme ce qui est à proprement parler haïtien. Je crois que le vaudou représente l'une des ressources culturelles haïtiennes. Parce que après 4 siècles d'indépendance, après près de 2 siècles d'indépendance,
1804,
il y a eu donc de nombreuses influences culturelles qui sont exprimées en Haïti. Il n'y a pas de totalitarisme vaudou. Après en parler, ce serait revenir à une sorte de vision du vaudou de type qu'on voit en Iran actuellement, dans l'Iran de Khomeini, bien entendu. Je pense qu'il y a d'autres systèmes culturels qui se partagent l'espace haïtien, mais que les Haïtiens doivent vivre dans une sorte de pluralisme religieux, mais qui suppose que le vaudou soit reconnu pour ce qu'il est, comme un culte qui devrait sortir de la clandestinité, qui devrait évoluer, qui devrait être critiqué.
Mais comment expliquez-vous que les Haïtiens, lorsqu'ils quittent leur pays, lorsqu'ils émigrent, transportent avec eux souvent, pas tous, mais certains d'entre eux, et souvent, transportent ce culte vaudou et l'établissent presque comme, je dirais, un signe distinctif?
Ça, c'est une pratique constante qu'on retrouve chez la plupart des immigrés. Dès qu'on part de chez soi, on essaie de retrouver tout ce qui permet de revivre la situation qu'on a abandonnée. Donc c'est un réflexe de reconstitution de son identité, dans une sorte d'opposition, de contraste par rapport aux nouvelles structures d'accueil étrangères dans lesquelles on est amené à vivre. Mais il est certain que là où les Haïtiens reprennent les pratiques du vaudou dans les milieux de l'immigration, là où les Haïtiens donc, reprennent ces pratiques, ils ont envie de retrouver de quoi ce qui leur permet de vivre dans un monde non pas hostile, mais en tout cas qu'ils ignorent encore, et ça a une fonction psychologique considérable. Ça leur permet au contraire de mieux s'adapter aux nouvelles réalités.
Si je vous comprends bien, donc il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter de les voir transporter avec eux ces pratiques, et il ne faudrait pas craindre que demain on se retrouve dans la soupière de Un groupe haïtien, un petit morceau, manger, ou être soi-même devenu zombie.
C'est un... Oh, ça, c'est le fantasme de ceux qui ne connaissent pas la pratique du vaudou. Il est certain que moins on connaît quelque chose, plus on est porté à fantasmer. Vous savez, en ce qui concerne, par exemple, le cannibalisme, si on étudie bien toute l'histoire de la littérature cannibalique, si je peux ainsi parler, on sait qu'au fur et à mesure que les Occidentaux entrait et connaissait différents pays du tiers-monde, au fur et à mesure, dans la littérature cannibalique, le cannibalisme lui-même reculait. Il voyait de moins en moins de cannibalisme. C'est curieux. Il ne se doute pas qu'ils y avaient mis beaucoup plus dans le plat que le plat n'en présentait lui-même. Eh bien, je crois plutôt que les pratiques du vaudou à l'étranger permettent moins un recroquevillement sur soi que l'adaptation au nouveau milieu, même si cela n'a pas l'air, si ça n'apparaît pas comme tel à bout de pourpoint.
Au fond, le problème reste toujours d'être accueillant à l'autre, de l'accepter comme autre.
Ah, c'est le fond du problème pour moi. Et mon livre sur le barbare imaginaire se termine précisément sur une réflexion sur la question de l'altérité, sur le rapport à l'autre, qui est le grand problème. Je pense que là où les Grecs, qui avaient pensé le concept de barbare, là où les Grecs pensaient que les barbares pouvaient garder leur condition de barbare, c'est-à-dire n'étaient pas obligés de se convertir en grec, on peut dire que depuis le XVIe siècle, donc depuis la découverte du Nouveau Monde, que moi j'appelle la conquête du Nouveau Monde, on peut dire que depuis cette époque, le concept de barbare a changé. On pense qu'il faut débarbariser ce qu'on imagine être barbare. En fait, il s'agit tout simplement de garder encore, c'est ce que je pense, un rapport à l'autre qui ne vise pas à sa dissolution, qui ne vise pas à le ramener à soi. Parce que ce qui représente une valeur dans le monde aujourd'hui et que je pense que toute la philosophie politique moderne devrait reconnaître, c'est que les cultures sont diverses. Et c'est peut-être ce qui fait le charme et la beauté du monde.
Laennec Urban, je vous remercie.
Rappelons que Laennec Urban est directeur de recherche au CNRS de Paris. Il a publié aux éditions du Cerf « Le barbare imaginaire », ouvrage sérieux consacré aux sorciers, aux zombies et aux cannibales en Haïti. Laennec Urban prépare une introduction à l'histoire de l'Église en Haïti, qui sera publiée chez Henri Deschamps en Haïti, et le phénomène religieux dans la Caraïbe francophone chez Sidika à Montréal. On pourra compléter cette rencontre en lisant Adriana dans tous mes rêves, prix Renaudot 88 de René de Pestre. Il y est question de zombies et de vaudous. René de Pestre est né à Jacmel, tout comme Laennec Urban.